la justice nous le confirme ou qu'il l'infirme ou qu'il dise que d'autres responsables de ces fosses communes existent, et nous faisons confiance vraiment à la justice militaire, et rien ne nous indique jusqu'à présent que cette confiance soit mal placée.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le voaafrique.com. Alors avec nous en direct de Kananga au Kasaï, maître Adrien Iloubakwei de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Sosten Kambindi, vous êtes journaliste en direct depuis Kananga également. Et puis sur ce plateau avec nous, Ziwundula Mulegwa, vous êtes l'ancien porte-parole du président Joseph Kabila. Et puis Scott Bob, vous êtes le directeur de VOA. Afrique. Vous avez longtemps couvert la RDC notamment. Une première question pour vous, maître Iloubakwei, si vous m'entendez. Alors, une réaction à cette interview de Lambert Mende, si vous l'avez entendue.
Merci beaucoup, madame, de la question que vous me posez et surtout de l'invitation. Il faut dire que ce que le porte-parole du gouvernement congolais venait de dire, lors de la page. Nous l'avons constaté sur le terrain, il y a eu une équipe de la justice militaire qui a enquêté. Et nous-mêmes, nous nous sommes rendus vers le haut magistrat militaire pour leur donner certains témoignages. C'est vrai qu'ils ont fait leur travail. Jusque-là, nous avions suivi un communiqué qui a été rendu public par la justice militaire. Il y a un certain nombre de gens qui avaient été dénoncés. Et puis lorsque vous voyez même les différentes vidéos, effectivement, jusque-là, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons dire que c'est du mensonge. Parce que, mais non,
donc le travail, donc pour l'instant, le travail est fait. Donc le travail d'enquête a bel et bien commencé, c'est ce que vous nous confirmez. J'aimerais qu'on se dirige vers Sosten Kambindi. Sosten, aujourd'hui, quelle est la situation dans le Kasaï à Kananga? Est-ce que c'est revenu au calme?
Oui, merci de l'invitation. Je salue maître André Iloubakwei. La situation qui se déroule aujourd'hui même à Kananga, le cortège du vice-gouverneur de province, M. Justin Milonga Milonga, qui se rendait dans la commune de Nganza pour une mission de pacification, a échoué des tirs d'un groupe rival de la milice de Kamouna-Sapou. Nous faisions partie du cortège et nous sommes rentrés au centre-ville en catastrophe. Déjà dans la matinée, deux autres groupes rivaux de militaires se sont affrontés, mais les forces de l'ordre étaient vite intervenues. Il y a le groupe de militaires qui sont arrivés à Kananga le dimanche, comme quoi ils venaient pour une reddition avec leurs armes qui sont cantonnées au Stade de l'Espoir, au centre-ville de Kananga. Un autre groupe est parti du quartier Kamaï pour s'attaquer au groupe qui s'est rendu.
Donc il y a encore...
La situation était quelque peu paralysée, les écoles étaient fermées. Et cet après-midi, il y a eu aussi cet incident dans la commune de Nganza, ce qui fait que la tension ne fait que monter au niveau de la province.
Donc la situation reste vraiment fébrile. Messieurs, je me tourne vers vous. Cinq vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent l'usage excessif de la force des services de sécurité dans la province du Kasaï. Que se passe-t-il exactement, monsieur Mulegwa? Pourquoi on en est là à se retrouver avec des vidéos qui montrent des atrocités qu'on a du mal à qualifier?
D'abord, quand beaucoup de gens ont entendu parler de ces vidéos, c'était choquant.
C'était le gouvernement a commencé par nier la première fois. Non, au début.
Normalement, puisque ça c'est quelque chose de très choquant, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre culture. Et c'était tout à fait normal pour le gouvernement de nier ça. Mais ils ont entamé des investigations. Le président de la République lui-même, comme vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, l'a dit. Le président de la République lui-même a dit que malgré le fait que cette information est choquante, on entame des investigations. Ils ont fait des investigations et effectivement, on a trouvé qu'il y a des gens qui ont fait en fait ces vidéos. Et ces gens, aujourd'hui...
Ces gens, ce sont des militaires.
Ce sont des militaires, effectivement. Et ils sont poursuivis aujourd'hui par la justice militaire.
Scott Bob, M. Mouléguat disait que ce sont des vidéos choquantes et que c'est ce qui expliquerait que la première fois le gouvernement a été en retrait. Enfin, on sait que le Kivu aussi est une zone d'atrocité. Comment on explique que le Kasaï explose depuis septembre ?
Eh bien, ce sont des rixes assez locales, mais qui s'amplifie au fur et à mesure que ça continue et maintenant ça qui attire une certaine attention nationale et aussi internationale. Une vidéo qui va virale comme celui-ci, ça va attirer des condamnations de partout, donc c'est assez normal. Et c'est bien clair que le gouvernement doit attendre qu'il ait des preuves, qu'il soit sûr avant d'admettre qu'il y a une faute.
Alors, il y a Human Rights Watch, l'ONG, qui dit que 12 de fosses communes présumées ont été signalées et il dénonce la présence de femmes et d'enfants parmi les victimes. Maître Iloubekwayi, est-ce que vous avez aussi noté ce genre de victimes, des femmes et des enfants parmi les victimes ?
Mais madame, il faut dire que l'association congolaise pour l'accès à la justice, section du Kasaï, est à l'œuvre et nous sommes en train d'enregistrer les différentes victimes, ça et là. Et notre enquête, juste là, est en cours. Donc, nous ne saurons pas dire quoi que ce soit, mais ce qui est vrai, la présence de fosses communes est une réalité, donc ce n'est pas un mensonge.
Mais est-ce qu'il y a des femmes et des enfants parmi les victimes ? C'est ce qu'avance Human Rights Watch. Est-ce que dans les personnes, les victimes que vous avez recensées, vous avez vous aussi trouvé des enfants et des femmes ?
Oui, il faut dire que les victimes ont une tendance générale. Il y a certes les femmes, les femmes.
On vous entend très mal. Je vous posais la question de savoir s'il y avait des femmes et des enfants parmi les victimes.
Exactement, exactement. Il y a des hommes, il y a les femmes, il y a aussi les enfants.
D'accord. Human Rights Watch a demandé mercredi 22 mars au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de créer une commission d'enquête sur les violences au Kasaï. Est-ce que le gouvernement congolais va appuyer cette demande ? Est-ce qu'ils vont travailler avec l'ONU sur la question ou est-ce qu'ils font une enquête complètement indépendante et séparée ?
En tout cas, je ne peux pas parler pour le gouvernement congolais, mais je pense que notre système judiciaire fonctionne très bien chez nous et le gouvernement a la capacité, en fait, de mener ces enquêtes. La preuve en est que, déjà, ils ont mené des enquêtes sur les vidéos et les gens qui ont commis ces crimes sont en train d'être punis. Donc je ne sais pas si on a vraiment besoin d'une nouvelle commission, puisque notre gouvernement a toute la capacité, la justice militaire est là-bas et la justice au Congo fonctionne très bien et je ne crois pas qu'il y ait vraiment une raison pour amener une commission internationale pour enquêter sur ces atrocités.
On reviendra un peu plus longuement dans la deuxième partie sur les relations entre l'ONU justement et le gouvernement congolais, et notamment sur cette affaire du Kasaï. Sosten Kambindi, le 12 mars, des membres américains et suédois du groupe d'experts des Nations Unies et quatre Congolais qui les accompagnaient ont disparu dans la province du Kasaï central alors qu'ils enquêtaient sur les récentes violations. Où en sont les opérations pour les retrouver ? Est-ce que vous, à Kananga, vous avez des échos ?
Bon, d'abord, laissez-moi d'abord vous dire que c'est dur pour moi parce que j'ai connu Zahid Kaplan et M. Michael. C'est des personnes que j'avais rencontrées par deux fois à Kananga dans le cadre de mon travail de journaliste lorsqu'ils sont venus la première fois. Et que deux jours avant leur disparition, je les ai rencontrés dans un hôtel à Kananga, donc c'est dur pour moi. On n'a pas assez d'informations sur les opérations de recherche qui se déroulent parce que la MONUSCO mène des recherches dans la zone. Ils ont été enlevés d'après les informations qui sont parvenues au niveau de la rivière Moyo sur la route qui mène vers Bunkonde. Les informations sont contradictoires. Il y a des gens qui disent qu'ils seraient en vue et que les ravisseurs les font déplacer de village en village après chaque deux jours. On a dit qu'ils seraient dans un village qu'on appelle Ngombe, parce qu'ils venaient être faux parce que des troupes ont été déployées. Dimanche dernier, le vice-gouverneur de province, Justin Milonga, a dit, a regretté le fait que les forces de la MONUSCO s'étaient rendues sur terrain sans avoir obtenu aussi la collaboration des autorités de la province ou des autorités au niveau du gouvernement central, en vue de conjuguer les efforts pour retrouver le cadre congolais et les deux experts des Nations Unies. Pour l'instant, les recherches se poursuivent, mais il y a trop peu d'informations qui filtrent.
Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, Sosthène. On va marquer une pause et revenir dans la deuxième partie où on reviendra essentiellement sur les relations entre l'ONU et la RDC sur ce dossier.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne.
Et donc, nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les nôtres.
Vies africaines.
Vies américaines.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
De retour dans ce Washington Forum, on poursuit cette émission consacrée aux violences dans la région du Kasaï en RDC. Comment le pouvoir central à Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Et quelle solution durable pour le Kasaï? Les autorités congolaises viennent de restreindre la liberté de circulation de la MONUSCO à Kananga, alors que la mission onusienne a intensifié les recherches au Kasaï central pour retrouver ces deux experts disparus depuis le 13 mars dernier. Tout à l'heure, Sosthène Kambindi nous expliquait que les autorités avaient réagi un petit peu de façon étonnée parce que la MONUSCO a déployé une enquête sur place. Pourquoi il n'y aurait pas un travail côte à côte, étant donné que ce sont des membres de la MONUSCO et que c'est sur le territoire congolais ?
D'abord, parlons des experts des Nations Unies qui ont disparu. Un des problèmes, je crois, pour le gouvernement, c'est le fait que les deux experts, ils étaient partis dans un endroit qui était très dangereux et ils roulaient en moto là-bas. Ils n'ont pas demandé l'appui du gouvernement, ils n'ont pas consulté le gouvernement, etc. Et aujourd'hui, il y a ce problème. Donc, le gouvernement, c'est un gouvernement souverain et le gouvernement doit protéger les membres de la communauté internationale, dont les gens de la MONUSCO. Donc aujourd'hui, vous vous imaginez, s'il y a une autre personne qui est kidnappée là-bas, ça va être un problème. Donc le gouvernement est en train de réagir en responsable, en essayant de restreindre le mouvement des gens qui vont dans ces milieux, qui est pratiquement une zone de guerre.
Scott Bob, comment on explique aujourd'hui, on sent qu'il y a une montée à chaque fois de grade dans les relations entre la MONUSCO, l'ONU en général et le gouvernement de RDC. Qu'est-ce qui explique cette tension qui se cristallise encore sur cet exemple d'enquête pour retrouver ces différents...
C'est assez normal. C'est une sorte de gouvernement-administration parallèle dans le pays qui critique ouvertement parfois le gouvernement, qui aussi fait des pressions politique sur la scène politique.
Mais est-ce que ce n'est pas un gouvernement critiquable sur certains points?
Oui, et ça gêne. Et puis vous avez 19 000 militaires sur le sol souverain et ça gêne aussi politiquement, militairement.
On va revenir vers vous, Maître Moulégua. J'aimerais savoir aujourd'hui comment se passe la situation avec ce regain de tension donc entre la RDC et les soldats de la MONUSCO sur place. Comment est-ce que vous pouvez effectuer votre travail?
Oui, madame, il faut reconnaître que c'est vraiment très, très, très difficile. Étant donné que lorsque nous mettons autour d'une table pour essayer de décortiquer cette situation, c'est comme s'il y a une sorte de guerre entre le gouvernement et les forces de la MONUSCO. Donc il y a un jeu de ping-pong et pourtant le gouvernement congolais est censé sécuriser toute sa solidarité territoriale. Donc aujourd'hui, à notre humble avis, ce n'est pas une raison pour dire que parce que ces gens-là sont allés du côté de Montréal et ils n'ont pas arrêté le gouvernement. C'est comme ça que le gouvernement ne sait pas vraiment s'impliquer. Non, nous estimons que ces gens-là étaient sur le territoire national et que le territoire était censé être contrôlé par le gouvernement congolais. Donc, les problèmes c'est que notre gouvernement ne veut pas, alors qu'il y a notre fond de poche, veut tout simplement qu'on puisse.
On vous entend très mal. Excusez-moi, Maître Moulégoua, on vous entend un petit peu mal, mais en tout cas, on aura compris votre propos. On va prendre tout de suite les réactions Facebook, parce que comme toutes les semaines, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous avons celle de Fabrice Moukania en RDC qui nous dit « Je donne raison à tous ceux qui disent que ce régime est rempli d'étrangers, car une armée purement nationale ne peut en aucun cas massacrer ses propres citoyens. » Il y a aussi Elie Kapassa en Afrique du Sud qui nous dit « Cette situation au Kasaï doit bien être justifiée par le gouvernement congolais et par la MONUSCO, car ce dernier est aussi chargé du maintien de la sécurité. Si le gouvernement est responsable, c'est aussi le cas pour la MONUSCO. » Diarra Kanyoumé au Mali, pour trouver une solution à ce fléau, il faut que M. Kabila quitte le pouvoir immédiatement, sinon cette crise ne finira pas. Messieurs, je me retourne vers vous. C'est quoi la solution politique au Kasaï? On a vu que c'était une région qui était opposée au gouvernement central avec ce chef traditionnel qui est décédé.
D'abord, je voudrais répondre à notre ami sur Facebook qui dit que ça, c'est un gouvernement plein d'étrangers et qui tire sur ses propres citoyens.
Il parle de l'armée.
Ouais, de l'armée même, que l'armée est pleine des étrangers dans l'armée. D'abord, ça, c'est faux, faux et archi-faux, et c'est un faux débat. L'armée congolaise n'est pas en train seulement de tuer la population comme ça. L'armée, notre armée, c'est une armée quand même qui est très, très professionnelle. Et si vous regardez la plupart de ces tueries qui sont faites, ce sont des tueries qui sont faites par cette milice Kamuinansapu. Ce ne sont pas des tueries qui sont faites par les gens de l'armée. L'armée aujourd'hui, l'armée de la RDC aujourd'hui, fait face à une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle où vous pouvez planifier les choses.
Est-ce que vous diriez que c'est une armée irréprochable sur
tout le territoire ? Non, il n'y a pas d'armée irréprochable dans le monde. Puisque si vous voulez parler des armées irréprochables, peut-être on peut parler même de l'armée américaine en Irak, etc. Notre armée n'est pas irréprochable. Il n'y a aucune armée dans le monde qui est irréprochable. Mais notre armée est en train de faire face à une guerre asymétrique où l'armée doit s'adapter aux tactiques et les stratégies qui sont utilisées par ces groupes terroristes.
Mais vous ne pensez pas que le fait aussi que le territoire soit aussi vaste et que certaines garnisons puissent être aussi isolées, parfois, on ne peut pas contrôler tous les actes qui sont commis ?
Non, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo étant un pays trop vaste. Non, ce n'est pas un pays trop vaste.
Très vaste, je disais.
Non, ce n'est pas plus. La RDC n'est pas plus grande que l'Algérie. Donc, on n'entend pas les gens parler de ces problèmes, etc. Donc, ce n'est pas un problème comme ça. C'est un problème où nous avons un groupe de terroristes qui veulent créer des problèmes, un groupe de terroristes qui est sponsorisé par des gens à l'étranger qui ne veulent pas voir les élections à se tenir à la fin de cette année en République.
Vous pensez que ce qui se passe au Kasaï, c'est soutenu par des étrangers, des gens hors du pays qui manipuleraient ce qui est en train de se passer ?
Ce qui est vrai, si vous parlez de la milice Kamuinansapu, vous parlez d'eux, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de moyens, etc. Et s'ils peuvent mener des combats qu'ils mènent aujourd'hui, donc il y a un appui qui vient de quelque part.
Scott Bob, est-ce que vous avez la même analyse ?
Eh bien, c'est-à-dire que pour des groupes autochtones qui sont très isolés, parfois très pauvres, s'ils se révoltent, ça veut dire que quand même ils se sentent menacés, mais aussi ils ont des déboires. S'ils ont mis des enfants, armés des enfants pour semer la violence, alors c'est aussi reprochable. Donc il faut vraiment que les autorités essayent de saisir ceci et d'essayer d'entamer des négociations ou quelque chose comme ça.
Sosten Kambidi, est-ce que pour vous, aujourd'hui, pour régler la situation au Kasaï, il faudrait que le gouvernement à Kinshasa prenne le problème à bras-le-corps et puisse dialoguer vraiment avec ceux qu'ils appellent des terroristes ?
Bon, le règlement de la situation, je crois qu'il y a une dynamique qui est déjà enclenchée au niveau de la province avec la redéfinition de stratégie par le vice-gouverneur de la province du Kasaï central aujourd'hui, on a vu qu'il y a des milices qui sont rendus. Mais au-delà, aujourd'hui déjà, lorsqu'on s'était rendu dans la commune d'Enganza où le cortège du vice-gouverneur a échoué de tir, les miliciens ont transmis un certain nombre de revendications pour ceux qui étaient, qui sont dans la logique de la rémission, ils ont transmis un certain nombre de revendications. Ils ont notamment demandé à ce qu'on lève toutes les barrières. Ils ont demandé qu'on leur rende le corps du chef Kamina Sakou, qui avait été officiellement abattu au mois d'août de l'année 2013. Ils ont aussi exigé, oubli et ordi, le départ du gouverneur de province, M. Alex Kadebopopa, puisqu'ils ont transmis au vice-gouverneur aujourd'hui. Mais au-delà de toutes ces revendications, c'est tout ce qui se raconte dans la province du Kassai Central. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si l'accord du 31 est cela, les miliciens le disent à qui veulent les entendre, que l'application de l'accord du 31 décembre 2016 peut être une solution à la pacification de la province du Kassai Central. Donc, on est presque dans une sorte d'une nébuleuse. On ne comprend pas très bien les revendications. Je ne suis pas d'accord avec M. Moulay Bazimboula, qui dit tout à l'heure que les miliciens bénéficieraient de l'appui de l'extérieur. Je crois que c'est voir les choses de très loin. Il est à des milliers de kilomètres de Kananga. Les choses ne se passent pas de cette façon-là. Le 27 janvier, dans les rues de Kananga, on attendait le Premier ministre Salih Dalibanga. Des jeunes enfants sont sortis, des fillettes, qui n'avaient comme arme que des balais et des bâtons. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas pu voir ces miliciens avec des armes qui démontrent qu'ils bénéficient de l'appui extérieur. En tout cas, c'est.
On a bien compris.
Cette appréhension-là, je ne sais pas comment on pourrait.
Merci beaucoup, Sosten Kambindi. Adrien Iloubakweyi, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette version des faits? Est-ce que c'est une solution politique qu'il faut pour le Kassai aujourd'hui, avec toutes les revendications qui ont été apportées, qui ont été faites?
Et madame, Sosten Kambindi, que je salue en passant, a tout dit, parce que votre invité qui est au studio, apparemment, il n'est pas sur place, hein, il ne maîtrise pas vraiment la situation sur le terrain. Nous qui côtoyons ces jeunes gens-là, ils nous disent clairement les revendications, il est vrai. La solution aujourd'hui passe par un effort qui est déjà consenti par le gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais attention, madame, parce que dans la résolution de cette crise, nous rendons compte que le gouvernement veut vraiment essayer de jouer à un très mauvais jeu, c'est-à-dire en rassemblant les uns et pour écarter les autres, parce que la situation que j'ai passée à l'endage aujourd'hui, comme je venais de vous dire, ce sont les frustrés qui se sont vus écartés par
effectivement.
Comme négociation, comme pour parler. Voilà, comme ça que nous décidons
effectivement, donc
rassembler tout le monde et tout le monde.
Effectivement, on aura compris que c'est aussi lié au dispatch des provinces, à la redistribution, au redécoupage qui avait été fait, au redécoupage provincial qui avait été fait. Scott Bob, c'est déjà la fin de cette émission. Très rapidement, aujourd'hui, une solution politique pour le Kassai, c'est ce qu'il faut en priorité?
Il faudrait essayer, parce que utiliser les forces de tampon sur une affaire comme ça, ça ne réduit pas le problème. Au contraire, ça a tendance à s'éparpiller. Alors je crois qu'il faut peut-être engager l'UDPS, qui est très fort dans cette région, peut-être à s'engager aussi.
L'UDPS qui fait partie des accords du 31 décembre.
De l'opposition, oui.
Donc l'opposition et le pouvoir à Kinshasa, c'est eux qui sembleraient avoir la clé de cette crise. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Vox Africa à Londres, qui a connu les attentats récents, qui diffuse Washington Forum depuis l'Angleterre. Et à la semaine prochaine. Merci.
sur FM en cours. La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.